si vous... Je crois que ce sera
si vous le voyez bien. Bon, alors je commence.
Oui.
Alors, je suis monsieur. J'ai environ 50 ans, un petit peu plus. Je suis parisien de naissance, mais orléanais depuis pratiquement ma naissance. Je suis ingénieur chimiste et je travaille dans une usine de fabrication de conserves alimentaires. J'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Mes enfants ont fait des études secondaires et supérieures, et dans notre milieu familial, nous sommes surtout axés sur l'élément musical. Nous aimons tous beaucoup la musique et la pratiquons. Au point de vue de mes activités sociales, je me suis beaucoup intéressé au mouvement parents d'élèves et c'est comme ça que je suis devenu président d'une association.
Eh bien, ça va aller, merci monsieur. On va continuer après pour prendre les
c'est ça.
Alors, moi je suis d'une famille orléanaise de plusieurs générations. J'ai une quarantaine d'années. Et je suis mère de famille de 3 enfants, une fille et 2 garçons.
Alors, je suis madame. Je ne suis pas orléanaise, je ne suis arrivée ici qu'il y a 3 ans, après avoir habité dans plusieurs régions de France, dont le nord et la Bretagne et le centre. J'ai 3 enfants, 3 garçons, qui sont tous les 3 dans un même établissement scolaire d'Orléans, et qui, ma foi, sont l'essentiel de ma vie. Il m'occupe beaucoup.
16 ans, 14 ans.
J'appartiens avec mon mari à l'association des parents d'élèves, justement, parce que j'estime que les problèmes d'éducation des enfants sont primordiaux dans une famille.
Alors, je m'appelle Pierre. J'ai 37 ans. Je suis installé à Orléans depuis 6 mois à peu près, et j'avais vécu auparavant, après avoir vécu toutes mes études à Paris, après avoir fait toutes mes études à Paris, j'ai vécu pendant 10 ans à La Rochelle. Je suis ingénieur agronome, ingénieur du génie rural, spécialisé dans les problèmes d'assainissement et d'aménagement des eaux en général, et je travaille actuellement à l'agence financière de bassin Loire-Bretagne. J'ai 4 enfants, dont l'aîné a 11 ans, oui, 11 ans. Et vient juste d'entrer au lycée, les autres étant plus petits.
Merci, monsieur.
Alors, je suis monsieur l'époux de madame. J'ai 44 ans. Je vais avoir 44 ans. 3 garçons, donc, de 16 ans, 14 ans et 12 ans. Je suis ingénieur de l'école centrale. Je fais 7 ans dans le charbon dans le nord et... Maintenant, je suis dans le caoutchouc, dans la région d'Orléans. C'est depuis 3 ans que j'habite ici et je suis très intéressé par les problèmes d'éducation en général et de ceux de mes enfants en particulier. Et c'est la raison pour laquelle je m'a entraîné dans cette aventure de l'association des parents d'élèves.
Oui. Bon.
Monsieur. Je m'appelle François. Je suis originaire de Paris, mais... installé très récemment à Orléans. Je suis ingénieur agricole et directeur commercial d'une firme de machines agricoles à Orléans. J'ai 4 enfants, dont les 2 aînés font des études supérieures actuellement, et les 2 derniers sont au lycée, ce qui m'a valu moi aussi de me préoccuper de leur éducation et m'a fait entrer dans l'association des parents d'élèves.
Oui. Bon, eh bien, c'est très bien, je crois que... Mais enfin...
Nous sommes deux Anglais.
Ah bon.
Nous avons fait des études de français à Londres, ensemble. Et moi, je suis orléans depuis le mois d'octobre de 69. et pour faire, enfin, pour faire la permanence de l'équipe à Orléans et pour continuer à faire le portrait de la ville d'Orléans. Et ma femme vient de me joindre Orléans depuis 2 semaines et elle va travailler, enfin, avec moi jusqu'à la fin du mois de juillet. Et nous espérons avoir terminé les enregistrements d'ici la fin du mois de juillet ou du mois d'août.
Enfin, c'est... Non, je pense que c'est à peu près tôt, on peut y aller.
Oui.
Alors, vous avez tous parlé de l'intérêt que vous partagez, je crois, entre l'éducation de vos enfants. Est-ce que vous pourriez, l'un d'entre vous, ou bien pas tous à la fois, mais enfin, quelques-uns, nous expliquer ce que c'est exactement que votre association de parents d'élèves, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, le statut légal, la fonction précise.
Sous quel aspect ça se présente? Qu'est-ce que c'est l'association?
Le mouvement parents d'élèves est un mouvement déjà ancien. Il a dû démarrer, si mes connaissances sont exactes, après la guerre de 1914-18. Et c'est notre fédération qui a été la première à créer ce mouvement. Les associations de parents d'élèves ont d'abord existé dans le secondaire, c'est-à-dire au niveau des lycées. Et puis, par la suite, les mouvements parents d'élèves se sont étendus au collège et maintenant dans le primaire et également chez les étudiants mineurs. Par la suite, d'autres fédérations se sont créées qui avaient toutes une appartenance politique. Notre fédération, et c'est peut-être pour nous la raison de l'attachement que nous lui portons, se caractérise surtout par une rigoureuse neutralité dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine de l'enseignement proprement dit. Ce qui fait que nous pouvons avoir au sein de notre fédération des associations composées de gens, de personnes d'origine les plus diverses. Et c'est, je crois, ce qui fait que notre fédération représente pour le gouvernement et pour le ministère de l'Éducation nationale un interlocuteur que nous pensons être valable.
Un interlocuteur entre eux?
Entre le gouvernement et nous, n'est-ce pas? Nous sommes capables de dialoguer avec le gouvernement sur les grands problèmes qui se posent à l'Éducation nationale.
Bien sûr. Et est-ce que c'est votre groupe, à vous, fait partie d'une association nationale?
D'une fédération.
D'une fédération.
Une fédération d'associations.
Oui. Alors, votre association est...
Notre association est l'association du lycée Potier.
Ah oui.
D'Orléans, c'est un lycée de garçons, enfin un lycée mixte maintenant, qui a environ combien ?
2000 élèves.
Qui est un vieux lycée d'Orléans, mais enfin qui est maintenant installé dans des bâtiments neufs.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a une association comme ça à chaque lycée, enfin, ou est-ce que c'est...
Oh oui, je pense.
Oui.
Oh oui, 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 maintenant, certainement.
Oui. Bon, il y a autre chose. Quels sont vos rapports avec les enseignants? Est-ce que...
C'est
quelque chose qui...
Non, vous êtes plus ancien que nous, enfin.
Ben, les rapports avec les enseignants sont devenus plus intimes et parfois donnent lieu à des conflits depuis la nouvelle loi d'orientation de M. Edgar Faure, reprise par Olivier Guichard, qui a créé dans le fonctionnement d'établissements scolaires une représentation des parents au sein des conseils de classe et du conseil d'administration d'établissement. C'est une nouvelle structure qui existe depuis les événements de mai. De sorte que, autrefois, les parents n'avaient de rapport avec les professeurs que pour discuter le cas de leur enfant ça marche bien, ça marche mal, il faudrait faire attention en mathématiques ou en français. Maintenant, et c'est une chose que les professeurs ont du mal à accepter, nous avons, je ne dirais pas la prétention, mais nous avons le souci d'intégrer davantage les parents et les élèves dans le fonctionnement de la classe et, par voie de conséquence, dans le fonctionnement d'ensemble de l'établissement. La participation suppose donc un dialogue plus continu avec les professeurs, d'une part sur les problèmes de discipline, sur les problèmes d'orientation et sur les problèmes de pédagogie. Les professeurs refusent en général d'évoquer les problèmes de pédagogie avec les parents, mais compte tenu de l'acuité de plus en plus vive d'un certain nombre de problèmes, par exemple la jeunesse des professeurs, l'inadaptation de certains professeurs à la maîtrise des classes, il se trouve que nous sommes obligés d'intervenir beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années dans la vie de l'établissement.
Oui.
C'est la façon dont je vois les choses personnellement. Oui. Je crois que si on pouvait lancer le dialogue là-dessus, ce serait peut-être un...
Oui, ce serait une très bonne idée.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur?
Certainement, je pense que ce sont les relations nouvelles avec l'administration, d'une part, avec le professorat et avec les organismes d'orientation qui sont les principaux points sur lesquels
notre action
peut être la plus efficace. Il serait très à souhaiter en particulier que pour l'orientation, le rôle des parents soit beaucoup plus étendu et écouté. Jusqu'à présent, on a plutôt tendance à les écarter. Et ce qui s'est passé au lycée Potier le prouve, puisque sous le prétexte assez tendancieux du secret professionnel, nous avons été écartés de certains conseils de classe par l'orientateur lui-même. Ce qui m'a amené à poser, après une conférence de notre recteur, une question écrite à laquelle il ne m'a pas répondu.
Ah bon?
Non.
C'est-à-dire que vous avez des meetings entre vous, et puis vous avez quoi? Des délégués qui vont demander...
Je me demande s'il ne serait pas bon que monsieur... Non, moi je ne connais pas assez le fonctionnement. Je me demande s'il ne serait pas bon qu'on vous résume rapidement les principes de la loi d'orientation scolaire de monsieur Edgar Faure, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation nationale qui a précédé le ministre actuel. Est-ce que ça vous permettrait peut-être d'éclairer les conditions dans lesquelles
fonctionne... De mieux situer les différents conseils.
Oui.
Alors, monsieur, vous qui êtes délégué de l'association conseil d'administration du lycée, vous pourriez...
Oui, si vous voulez, c'est une structure à plusieurs niveaux. Le conseil d'administration de l'établissement comprend de droit l'inspecteur d'académie, le proviseur de l'établissement, les représentants d'administration, les représentants élus des professeurs. Les représentants d'administration n'étaient pas élus, ils sont de droit. Hein, l'intendant, le censeur sont des représentants de droit au conseil d'administration. Les professeurs ont des syndicats et votent leur représentation au conseil, par élection, désignent leur représentant au conseil d'administration. Les élèves désignent leur représentant et les parents de même. Alors, dans le cas du lycée Potier, où il y a deux associations, notre fédération, je m'excuse de la citer en tête, enfin, qui est en compétition avec la fédération Cornec, qui groupe surtout des parents enseignants, il faut bien le dire. Alors, nous avons donc 8 sièges à pourvoir. Notre association en aurait reçu 6 et la fédération Cornec en a reçu 2, de sorte qu'il y a 8 parents au conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration a pour mission de voter le budget, d'examiner les problèmes de discipline qui qui relève du conseil de discipline et les problèmes que la commission permanente a délégués au conseil d'administration parce que les décisions de commission permanente ne sont pas exécutoires et doivent remonter au conseil d'administration. Alors la commission permanente se réunit en principe tous les mois et le conseil d'administration tous les 3 mois. Alors à la commission permanente, il n'y a plus à ce moment-là que le proviseur, le censeur, l'intendant, 4 élèves et 4 parents. Et puis, il doit y avoir 8 professeurs, je crois.
C'est une commission exécutive.
C'est une commission, alors, qui, elle, traite les problèmes les plus urgents. Elle se transforme en conseiller de discipline s'il y a à examiner le cas d'un élève. Alors, elle prépare le budget. Le budget est une somme globale, pratiquement inamovible et décidée par le ministère des Finances. Mais à l'intérieur du budget, il y a une répartition entre les besoins d'un laboratoire de langue, de la gymnastique, du matériel de sport ou des transports pour aller faire des compétitions interuniversitaires. L'amélioration des menus de l'intendance, quoi. Bon, alors, ça c'est le fonctionnement, disons, général de l'administration. Ensuite, il y a au sein de chaque classe 2 délégués de parents et 2 délégués d'élèves qui, avec les professeurs, doivent se réunir une fois par mois pour étudier la vie de la classe. Et en fin de trimestre, le conseil de classe se transforme, disons, en conseil de fin de trimestre pour l'établissement des appréciations du trimestre. Alors, donc, il y a en principe 9 conseils de classe. Et comme le disait M. l'orientateur pédagogique et certains professeurs et certains parents ont demandé que les représentants des parents et des élèves n'assistent pas à 3 conseils sur les 9 dans lesquels les professeurs peuvent entre eux discuter les problèmes qu'ils estiment ne regarder qu'eux. Alors nous sommes en opposition avec cette décision qui a été une décision, disons, démocratique par le jeu d'un vote au conseil d'administration et nous fonctionnons donc de cette façon-là cette année.
Et ces problèmes que les professeurs estiment ne regarder qu'eux, c'est des problèmes de...
Je pense que...
Des problèmes familiaux ou qui ont des problèmes pédagogiques qui paraissent aux professeurs ne pas pouvoir être évoqués. Ne pas pouvoir être évoqués devant leurs deux camarades et devant d'autres parents. Ils estiment être liés là par un secret professionnel.
Oui. Mais est-ce que vous avez, vous, en tant que membre de cette association, quelque chose à voir avec le choix, disons, du programme ou des manuels?
Non. Pas en France actuellement.
Non.
C'est demandé, ça. C'est une chose qui est demandée par les fédérations, ça.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'influence directe, mais enfin, il est certain que les associations de parents d'élèves, que ce soit la nôtre ou les autres associations, ont tout de même des contacts au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau parisien, avec les responsables du ministère de l'Éducation nationale qui sont chargés de l'élaboration des programmes.
Et c'est ça.
Disons que dans une certaine mesure, le ministre de l'Éducation nationale peut tenir compte des vœux exprimés par certaines associations et de certains vœux exprimés par certains. Mais c'est simplement une... Il en tient compte s'il le veut bien.
C'est ça,
c'est une indication. Et c'est simplement une indication. Le ministre, en fait, est souverain pour décider de l'établissement des programmes.
Oui. Mais vous aimeriez que ce soit fait d'une autre manière?
C'est-à-dire que nous pensons... Excusez-moi de prendre la parole. Nous pensons que, dans les grandes lignes, il faut que ce soit des commissions pédagogiques qui fixent les programmes. Mais dans l'application au niveau des établissements, nous pensons qu'il devrait y avoir des possibilités d'intervention, en particulier sur l'enseignement de certains professeurs, que nous pensons... Et que nous constatons, donc par les résultats obtenus, que nous constatons qu'ils ne sont pas du tout à leur place. Je pourrais vous donner des exemples concrets, n'est-ce pas, de professeurs dont les résultats sont absolument dérisoires parce qu'ils n'ont pas été formés à la discipline pédagogique de façon correcte. Et par conséquent, ce sont les élèves, ce sont les enfants qui en souffrent, qui en pâtissent. Alors c'est plutôt sous cet aspect-là que nous souhaiterions être écoutés.
Oui, merci.
Voyez-vous ?
Oui.
Alors que là, c'est un domaine absolument tabou. Et nous...
Oui, c'est même plus grave parce que c'est non seulement un problème de contenu de l'enseignement, mais de méthode d'enseignement.
De méthode,
là, et ça va même en définitive plus loin, puisque ça peut arriver à viser à un homme en tant qu'il applique une certaine méthode ou en tant que ses capacités pédagogiques sont bonnes, moyennes ou mauvaises,
absolument.
Qu'on peut les estimer comme telles. Alors il est évident que sur ce dernier point, c'est-à-dire l'appréciation des qualités pédagogiques d'un professeur, le corps professoral se hérisse lorsque les parents prétendent mettre leur grain de sel dans l'appréciation des professeurs. Ils considèrent que c'est un domaine rigoureux, qui leur est rigoureusement réservé.
Et pourtant, c'est le seul domaine dans lequel on pourrait avoir un avis pertinent.
C'est très grave, c'est très grave. C'est un problème de déontologie, finalement, presque.
Est-ce que je pourrais vous demander quelque chose qui vous semblerait peut-être un peu... qui n'a pas de rapport direct avec ce que nous discutions. Mais est-ce que vous avez des avis personnels sur ce qu'on devrait surtout apprendre aux enfants à l'école? Je ne parle pas seulement de matière, mais l'importance de, disons, formation de l'esprit, discipline intellectuelle.
Ah oui. C'est sûr.
Ah, c'est ça. Justement, quand vous êtes entendu.
Même au sein de l'association.
Ah oui.
Madame. Culture générale ou quoi?
Oui, surtout.
Ou spécialisation. Dans le fond, c'est
culture
ça le
général
grand.
Au départ,
c'est ça le grand dialogue.
Oui.
Hein? Culture générale ou spécialisation.
Mais au départ, c'est toujours une culture générale.
Je crois que nous sommes assez.
Je pense que ce dont nous souffrons tout de même dans nos établissements français, c'est tout de même d'un manque d'éducation civique de nos enfants. On ne leur apprend pas à former une équipe, à juger d'un problème qui intéresse l'ensemble de la classe, à apprendre la vie en société, tout de même, qui est une chose importante, puisque chacun vit uniquement pour soi. Et je pense que ça serait d'abord un bon début de commencer par là. Et ça fait absolument défaut dans nos établissements. Oui.
C'est le thème du congrès cette année.
Ça fait absolument défaut dans nos établissements.
La fédération a son congrès au mois de mai à Avignon, et c'est le thème justement du congrès d'éducation civique de l'enfant.
Oui.
Oui, et c'est certainement là où nous avons le plus grand conflit avec les professeurs.
Ah oui,
parce que...
Qui nient totalement.
Qui ont été submergés au mois de mai par des
68.
Garçons, en mai 68, par des garçons qui n'avaient pas reçu d'éducation de citoyens, qui se sont comportés comme des gamins et qui ont fait sauter la baraque, hein, alors que s'ils avaient eu la possibilité de transformer leur classe en un micro-parlement...
Oui.
Hein, s'habituer à confronter leur point de vue autrement qu'en se tapant dessus, hein, il est certain que nous n'aurions pas eu les explosions que nous avons. Et nous allons les avoir de nouveau si les professeurs ne veulent pas descendre de leur piédestal et s'humaniser et se démocratiser. Parce qu'au fond, finalement, les professeurs sont de très mauvais démocrates.
Oui, hein. C'est vrai.
Ils ont leur vérité qui descend du ciel. Elle n'est pas contestable, on n'a pas le droit de la critiquer.
C'est ça.
Hein, et ils sont très loin de leurs élèves.
Et les élèves moins que quiconque.
Oui.
Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que vous entendez? C'est un certain entraînement de, ou une certaine formation de
vie
l'esprit
de vie en groupe.
Oui.
Parce que le français ne sait pas vivre en groupe.
Pas en groupe.
Je critique peut-être violemment mes concitoyens. Mais il n'y a qu'à le regarder conduire sa voiture, il n'y a qu'à le regarder se comporter dans une file d'attente.
Ouais.
Hein, en Angleterre, vous prenez la file, vous laissez passer les piétons si vous êtes en voiture. En France, vous vous comportez comme un sauvage, et de plus en plus.
Et vous avez peut-être des idées à comment on pourrait faire ça pratiquement?
Je pense que c'est le travail des éducateurs.
Oui.
Si les éducateurs ne le font pas, les parents ne sont pas toujours capables de le faire. Et si des enfants vont dans des établissements scolaires pour élever leur niveau de culture,
ce qu'il faudrait surtout pas, c'est que le corps professoral défasse ce que les parents ont tenté de faire.
Oui,
en quelque cas.
Il est certain que la démocratisation de l'enseignement a amené au lycée de tout.
Hein. Absolument.
Alors, il y en a dont il faut assurer l'éducation, et il y en a d'autres qui
demandent un petit peu être freinés.
Oui, oui. Alors, je crois que les professeurs sont très nettement dépassés par ces problèmes.
C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas les aborder.
Il y en a qui le font, mais une minorité.
Une minorité.
Je pense qu'ils n'ont pas été formés
normalement
à ça.
Non plus.
Ils n'ont eu aucun cours, au fond, de pédagogie ou de sociologie. Ils ont appris leur technique
sur le
spécialisée, mais ils restent purement intellectuels. Et la vie sociale ou la vie économique
leur
échappe presque totalement.
Non mais, je m'excuse de...
Non,
cher ami, mais je reviens de Mulhouse hier.
Oui.
Bon, à Mulhouse, il y a deux établissements. Il y a l'école supérieure de chimie. Tous les professeurs sont obligatoirement résidents à Mulhouse. Il y a un centre supérieur d'enseignement technique dont les professeurs sont les trois quarts résidents à Strasbourg ou à Paris. Et il n'y a que trois professeurs qui sont résidents à Mulhouse. Par conséquent, quand on prend des décisions sur le fonctionnement du centre du CEST, il y en a trois qui sont là à Mulhouse et tous les autres qui sont à Paris. Ça, c'est des gens qui ne sont pas intégrés dans l'université. C'est scandaleux.
Je suis bien de votre avis.
Alors, on crie après les écoles d'ingénieurs, ceci, cela, eux, ils ont quand même le respect de leur mission.
Et leur fierté.
Oui.
C'est vrai. C'est vrai.
Alors, à Orléans, il y a des professeurs qui manquent le train du matin et leur cours commence à 10h au lieu de
9h. Et à l'université de la Source, c'est encore pire.
Oui,
c'est encore pire.
Le campus universitaire chez les Anglo-Saxons, c'est quelque chose de... C'est leur vie.
C'est une entité.
Ils y sont 40 heures par semaine.
C'est une entité.
Et quand les enfants viennent poser un problème à un professeur, on cogne à sa porte et puis il explique le coup aux enfants. Chez nous, ils ont disparu.
Mais les professeurs qui habitent Paris continuent leurs études ou parce qu'ils veulent habiter Paris?
Non, parce qu'ils veulent habiter Paris et que le rectorat est incapable de leur interdire d'habiter Paris, en leur disant vous devez habiter à Orléans, vous devez habiter à Mulhouse, et puis c'est tout.
Oui, aucune autorité.
Aucune autorité, exactement.
Il y a une décentralisation qui se fait à l'échelon de l'activité professionnelle et non pas à l'échelon de la résidence. Il n'y a donc pas assimilation de la région.
Non.
Oui, dans un cas comme Orléans, où Paris est à une heure de train, il est méfiant, donc ça n'arrange rien.
Non, ça n'arrange rien.
Mais ça ne s'arrangera pas.
Je pense, non, Orléans peut-être, mais il y a d'autres cas, nous étions à Laval avant de venir à Orléans. Beaucoup de jeunes professeurs, effectivement, continuaient leurs études à Rennes et ne venaient à Laval que pour assurer leurs cours. Alors, ils les assuraient, ils ne les assuraient pas.
Oui, c'est souvent comme ça. Les professeurs qui habitent Paris s'arrangent pour grouper sur 40 heures, tous leurs cours à Poitiers ou à Clermont-Ferrand.
Mais dire-le-moi, la source, et les professeurs sont à Poitiers.
Oui.
Vous voyez les liaisons Poitiers-Orléans, c'est pas tellement commode.
Oui, maintenant, vous savez, il y a obligatoirement des échanges parce qu'il y a des chaires qui n'occupent que les gens très peu de temps.
Très peu de temps.
Il est difficile de sédentariser un professeur à Orléans pour enseigner 43 heures par semaine. Alors, on est obligé de faire appel au bon service de M. Intel qui réside à Poitiers ou à Dijon.
Et pour le secondaire, alors évidemment, ça c'est une chose qui les met en colère, quand on cite le nombre d'heures que fait un professeur français, un professeur français fait 16-18 heures par semaine, un professeur anglais ou américain fait 40 heures par semaine. Je ne comprends pas que...
Est-ce exact, madame?
Oui.
Mais 40 heures de cours...
Non, de présence.
De présence.
Il reste là tout le temps.
Il est là tout le temps.
Oui.
Il peut jouer au football, il peut jouer au ping-pong avec eux, mais il est là.
Oui.
Il est là comme éducateur.
C'est ça. Alors justement, je te refais une petite digression là. Je voudrais profiter que nous avons des amis anglais pour leur poser quelques questions à notre tour sur un problème qui nous préoccupe
de façon magistrale, c'est l'enseignement des langues vivantes. Vous savez qu'actuellement, le dialogue s'est instauré, mais d'une façon très pénible, entre le corps enseignant et les parents d'élèves d'un côté et le ministère de l'autre, sur l'enseignement des langues vivantes. Faut-il ou ne faut-il pas deux langues vivantes, en plus de la langue maternelle? Faut-il faire un enseignement d'une langue vivante très rapidement, de façon très pragmatique, pour amener tout de suite à une pratique de cette langue, et puis ensuite apprendre une deuxième langue? Enfin, voyez-vous, le problème est assez confus. Et d'ailleurs, les opinions sont assez partagées. Je crois que nous sommes à peu près unanimes à dire qu'il faut de toute façon qu'une langue soit sue très rapidement par l'enfant pour qu'après il puisse l'utiliser soit à des fins pratiques, soit à des fins culturelles. Mais de toute façon, il faut au départ qu'elle soit lue, qu'elle soit sue et bien pratiquée si on veut pouvoir la cultiver et acquérir une certaine culture dans cette langue. Tout au moins, je crois que c'est une opinion qui est assez répandue. Alors, nous aimerions également connaître votre point de vue d'anglais et de professeur anglais sur la façon dont vous avez pu constater qu'on enseignait votre langue en France.
Oui.
Voilà, je vous pose une question piège. Je m'en excuse, mais les Français sont toujours un peu comme ça, vous savez.
C'est avec plaisir. Tout d'abord, il faut vous dire que nous ne sommes pas pédagogues. Nous sommes linguistes.
Oui.
Et nous ne sommes pas professeurs même. Nous avons tous deux enseigné en France en tant qu'assistant dans les lycées français. Ensuite, il faudrait, je pense, vous dire qu'en Angleterre, c'est difficile à faire des généralisations trop générales, parce que l'éducation n'est pas
uniforme.
Enfin, n'est pas du tout conçue de la même.
Non.
N'est pas du tout conçue de la même façon que.
On n'avait pas eu Napoléon. On n'avait pas eu Napoléon. Ils l'ont battu. Ils ont éviter le microbe.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup.
Oui, vous l'avez gardé à Sainte-Hélène, c'est vrai.
Mais il existe.
Oui, flexible.
Beaucoup de différents. Sorte d'établissement, et c'est surtout, ça dépend surtout du chef de l'établissement, ses méthodes, enfin, les langues qu'il va enseigner, tout, enfin,
oui, enfin,
jusqu'ici, car...
Les programmes dépendent du chef d'établissement.
Oui, en général, par exemple, il doit enseigner une langue ou deux langues étrangères, mais c'est à lui de choisir s'il enseigne le russe et l'italien, ou le chinois et le gallois.
Ce
n'est pas du tout le français et l'allemand. Enfin, en général, la première langue qu'apprennent les enfants à l'école, c'est le français. Ensuite, c'est soit l'allemand, soit l'italien, soit le russe, soit
l'espagnol.
Oui, l'espagnol, etc. Mais...
C'est vraiment très difficile de répondre sur ce point.
Combien d'heures avez-vous au début, pour le débutant qui n'a jamais appris un mot de français?
Nous n'avons pas des cours par heure.
Non.
Nous avons des cours
par demi-heure, non?
Par 40 minutes.
Oui.
Et alors nous avons 4 cours de 40 minutes, ce qui fait...
160 minutes, ça fait 3.
C'est 160 minutes.
Oui. Ça fait à peine 3 heures.
Oui.
Et donc c'est le même temps.
Oui. Et mais l'éducation, jusqu'à l'âge de 16 ans, tous les enfants qui vont au lycée apprennent au moins une langue étrangère, je crois. Mmh. Mais c'est-à-dire que même vers l'âge de 16 ans, on commence à se spécialiser. Et alors, il peut y avoir, par exemple, des enfants qui font sciences physiques, chimie, sciences naturelles, mathématiques, et qui n'ont qu'une langue étrangère. Mmh. Tandis que d'autres, comme était mon cas, j'ai passé un examen en français, en allemand, en latin et en langue anglaise, en littérature anglaise. Ce qui faisait 5 parties du certificat. Mmh. Et les 3 autres qui restaient, c'était les maths, des sciences naturelles et l'histoire. Donc j'ai vraiment très peu de formation scientifique, il y a beaucoup de formations du côté de sciences littéraires. Alors, après l'âge de 16 ans, on fait encore un choix de matière qu'on va apprendre au lycée. Et de 16 ans à 18 ans, en général, les enfants n'ont que trois matières. Et moi, j'ai fait allemand, anglais et français. Et pendant deux ans, enfin, on a d'autres cours, mais enfin, qui ne font pas partie de l'examen de la fin. Nous avons par exemple des cours de sciences physiques, chimie, sciences naturelles pour les gens qui font lettres, des cours d'anglais et de langue pour des gens qui font sciences, etc. C'est un peu mélangé. Mais toujours, il y a trois matières principales et enfin, on a un examen à la fin dans ces trois matières principales. Et pour cela, nous avions 6 heures par matière.
C'est ça, donc c'est la phase d'approfondissement de l'enseignement que vous avez eu jusqu'à 16 ans. Et le grand débat qui a eu lieu chez nous à propos des langues vivantes, au fond, c'était de savoir s'il fallait obliger les enfants à apprendre deux langues avant 16 ans, ou se contenter d'avoir des enfants qui pouvaient apprendre deux langues, n'en apprendre qu'une, ou en apprendre trois, l'approfondissement de la première langue étant pour certains enfants une nécessité parce que leur enseignement n'avait pas été suffisamment approfondi. Je crois que le souci de l'éducation nationale de faire des petits génies avec tous nos enfants, ça les rend complètement abrutis. Hein.
Ah oui.
Nos enfants ne sont pas tous des génies.
Mais non.
Alors,
ils
ne peuvent pas tous passer dans le même moule.
Ils n'ont pas besoin de
moule. Alors, chez eux, il y a le moule à gaufre, le moule à crêpe, le moule à petit gâteau. Ben, nous, c'est uniquement le moule.
Moule à génie.
Moule à génie. Oui.
C'est sûr, non, mais c'est vrai.
Et c'est ça la difficulté de dialogue avec les professeurs. Parce que, d'un autre côté, il y a eu aussi le problème du latin. Il n'y a pas de raison d'interdire à certains enfants d'apprendre le latin en sixième si ça leur plaît.
Bien sûr. Hein? Bien sûr.
Mais je pense qu'il va y avoir du reste une marche arrière, étant donné que.
La position de la
présidente. La présidente de la République.
Ah, oui, elle avait déjà commencé parce qu'on avait dit qu'on allait faire du latin seulement en quatrième au lieu de commencer en sixième, c'est-à-dire au bout de deux ans d'études secondaires, et maintenant en cinquième on fait des cours d'initiation au latin. Alors je pense qu'on pourrait envisager de reprendre en sixième des cours d'initiation à l'initiation du latin, si bien qu'on s'est ramené finalement au problème
précédent. Oui, mais alors là il se pose le problème de savoir si dès le départ on veut faire des littéraires ou on veut faire des scientifiques, parce qu'il est certain qu'on ne peut pas leur faire faire le tout à la fois.
Non, vous savez,
je crois qu'au départ,
le latin, c'est un exercice intellectuel qui conduit aussi bien à des gens qui se destinent à la formation scientifique qu'à la formation littéraire. Parce que je ne suis pas tout à fait de l'avis de votre mari, madame, quand il dit qu'on a voulu faire des moules à génie. On a voulu effectivement en France faire des moules à génie, mais je trouve qu'on a une conception du génie de moins en moins haute.
C'est-à-dire
qu'on remet tout le monde dans le même moule sous le prétexte d'en faire des génies, mais en fait, des génies qui ne feront plus de latin, des génies qui n'étudieront plus qu'une langue vivante, dont on décharge les programmes d'année en année sous prétexte que ces chers petits sont fatigués. Donc finalement, les
génies. Je ne pense pas.
On les alourdit, mais de choses inutiles. On les alourdit de choses inutiles. J'ai besoin de discuter à midi avec mes enfants.
Vous essaierez d'expliquer à vos enfants la digestion des corps gras en quatrième sans avoir fait un brin de chimie. Bah, c'est drôlement coton. Les lipides, les glucides, le sucre gastrique.
Et puis c'est inutile.
La liqueur, qu'est-ce qu'il. Alors, c'est la liqueur de Fehling. Et puis le.
Dosage du glucose.
Voilà. Là, je crois que.
Ils sont perdus, là.
Oui.
Et puis on les perd, on les doit pour rien.
Alors, l'enseignement de l'histoire, c'est pareil, s'ils ne connaissent pas tous les gouvernements successifs de Louis XIV. Quoique ça changeait beaucoup moins que maintenant.
Il y avait un peu plus de stabilité.
Mais enfin, toutes les guerres de 2014, si vous voulez.
Oui, mais d'ailleurs, il faut dire que dans le domaine de l'histoire, on avait tellement chargé les programmes
qu'il a fini
que les professeurs sont autorisés à choisir les chapitres qu'ils veulent faire.
Oui.
Parce que le livre couvre, celui de troisième par exemple, couvre oui. De Louis XIV à Napoléon III, c'est absolument impossible.
Moi, je suis à la fois de la vie et pas de la vie de M. Parce que je suis comme lui, j'ai le sentiment qu'on élague, hein, qu'on allège les programmes. Et puis quand je regarde travailler mes enfants, je les trouve devant des programmes aberrants. Moi, alors je suis perplexe.
Moi, il y a une chose qui me frappe actuellement, c'est que tous les élèves et beaucoup de parents, et vous le premier, vous vous plaignez que les élèves aient des programmes très chargés. Mmh. Et moi, je suis frappé par les lacunes effroyables qu'on constate dans la culture générale des jeunes qui sont en première ou en terminale. Mmh. J'entendais l'autre jour au cinéma, derrière moi, un groupe de jeunes qui, d'après leur âge, avaient donné... devait être en terminale ou subterminale, mm-hmm. enfin, et qui se posait des questions sur... il était question, si j'ai bonne mémoire, de la guerre de Troie, mais des questions d'une naïveté absolument incroyable. Incroyable. Alors nous sommes quand même dans une civilisation d'une culture gréco-latine, et ça a continué après la guerre de Troie sur le débarquement.
Mais Nélas connaît bien.
Il ne savait rigoureusement rien, mais aucune idée, et il posait des questions d'une naïveté. Il y avait également... un problème, ils ont discuté sur l'étymologie d'un mot qui était, malheureusement pour le français, composé d'une racine grecque et d'une racine latine. Mais c'était vraiment quelque chose de très étonnant. Vous savez, c'était de la classe du monsieur qui explique le Spitzhund avec le chien, parce que Spitz veut dire chien et Hund qui veut dire pointu. Et c'était à peu près de cet ordre-là, mais c'était quelque chose d'incroyable. Aucune connaissance de linguistique, d'étymologie, ni quoi que ce soit. Alors, tout de même, enfin, ils sont...
Mais bien sûr, monsieur. Mais j'ai lu dans une revue spécialisée qui s'appelle l'Éducation, une enquête qui a été faite dans plusieurs lycées de la région parisienne, et une enquête très importante, et où quelques questions avaient... Il y avait une question qui m'a particulièrement frappé, parce que je la connais bien, c'était la question de la réforme.
Quelle réforme? Nous avons eu beaucoup de réformes,
voilà.
Cher monsieur.
Justement, vous tombez dans un gâteau. Mais vous savez,
il ne s'agissait pas de celle de l'éducation nationale.
Fallait voir les réponses. C'était...
Alors,
je voulais poser une question à monsieur et madame. Est-ce qu'en Angleterre, vous attachez, dans les études secondaires, dans l'étude générale, plus d'importance au début à la culture générale, ou est-ce que... Déjà, dès le départ, dès l'âge de 10-11 ans, on commence déjà à sentir une orientation de l'enfant.
Je ne crois pas que dès l'âge de 10-11 ans, on sent une spécialisation. L'enfant, en général, fait tout, enfin, aussi bien que des travaux avec du bois, le dessin, la
chose,
etc. Enfin, de tout. Mais déjà, à l'âge de... Enfin, je ne peux que citer mon cas. Mmh. Et... 11, 12, 13 ans, donc 6e, 5e, j'ai tout fait, aussi bien sciences physiques que le français, que le latin.
Donc culture générale.
Oui. Mais dès l'âge de, donc je suppose 12, 13 ans, à l'entrée en 4e, il a fallu choisir entre la géographie et le dessin et quelque chose d'autre. Et
il y avait déjà des
travaux manuels.
Des choix.
Donc, tous les travaux manuels, dessin, etc., c'était éliminé. J'avais géographie, enfin, j'avais quand même toutes les matières, mettons un tout petit peu scientifique ou littéraire.
Ouais. Il y avait déjà l'option.
Oui. Mais ensuite, à 15 ans, c'était la physique qui est partie. La chimie est partie à 15 ans aussi, je crois. La géographie est partie à 15 ans. Et finalement, je suis arrivé ce que nous appelons cinquième, c'est en seconde. Et j'avais à préparer à l'examen 8 certificats. Dont je vous ai cité les mots tout à l'heure,
c'est ça.
La langue anglaise, littérature anglaise, français, allemand, latin, histoire, sciences naturelles et maths, ça.
Mais vous avez chez vous quelque chose qui correspond à notre baccalauréat, parce que vous parlez de 8 certificats là. C'est vrai qu'ils sont indépendants les uns des autres.
C'est 8 matières. Enfin, à l'âge de 16 ans, nous passons à un examen qui s'appelle le certificat de l'éducation, certificat général de l'éducation niveau ordinaire. Et pour avoir, mais nous faisons cela par matière. Et pour avoir un certificat niveau ordinaire convenable, il faut au moins 5 matières.
Ah, c'est bien.
Mais enfin, vous pouvez voir un enfant qui sort du lycée avec deux ou trois matières.
Oui, oui, c'est déjà
quelque chose, enfin, il a quelque chose sur papier. Mais,
et puis pour passer au niveau supérieur, niveau avancé, il faut avoir quoi, ça?
Cinq. Il faut avoir
cinq
matières dans le certificat du niveau ordinaire.
Mais puis, ça, les cinq certificats n'étaient pas à la high school, ils étaient
à
la grammar school.
Ou secondary model.
Oui, même au secondary model, mais surtout au grammar school.
Grammar school. Lycée.
Et dans les cinq matières, donc on fait un choix de trois matières pour préparer le certificat avancé, le niveau avancé. Et si vous avez deux niveaux avancés à la fin, quand vous avez tous les certificats, en fait, les examens, si vous avez deux matières en niveau avancé et trois matières, je crois, en niveau ordinaire, ou si vous avez trois matières au niveau avancé et deux matières au niveau ordinaire, ou enfin plus, vous avez le minimum d'exigence. Ouais. Pour l'entrée à l'université. Donc vous avez le baccalauréat sans mention. Mais pour l'entrée à l'université en Angleterre, il faut que vous fassiez une demande l'année même où vous voulez aller, au mois de janvier, vous voulez entrer à l'université au mois d'octobre. Et vous avez, selon l'université, enfin ça dépend, quelquefois l'examen à passer.
Mais c'est-à-dire que vous pouvez faire la demande à plusieurs universités.
Oui, vous pouvez faire la demande.
Pas forcément à l'université de votre ville.
Oui, oui.
C'est ça.
Parce qu'il y a des universités qui spécialisent dans certaines disciplines. Alors,
vous avez le choix maximum de 6 universités et sur le formulaire. Ah, ouais. Et ensuite, pour toutes les universités, il faut que vous alliez pour une interview. Donc, il faut que les professeurs
vous examinent. Ah, bon, il y a déjà un examen oral.
Individuel.
Oui. C'est pas tellement un examen oral.
Non, c'est un...
C'est
une conversation.
Oui.
Un entretien.
Quelque chose d'assez formel. Oui.
Mais c'est pas
c'est
belle, ça.
Pour faire connaissance un peu et
pour juger.
Oui.
Et poser des questions, quand même.
Oui.
Et c'est le professeur qui peut décider si vous êtes admis ou si vous ne l'êtes pas.
Si vous êtes sensationnel, enfin, si vous avez tous les certificats qu'il faut, il peut dire donner une réponse sans condition. Donc vous êtes admis que vous ayez des conditions.
Oui, en France, on ne peut pas envisager comme un système analogue en France parce qu'on vous dira toujours c'est du favoritisme. Alors l'Angleterre, qui est le berceau de la démocratie, applique un système qui, au fond, n'a rien de démocratique. Hein,
Mais enfin, pas tout à fait. Il faut quand même avoir le minimum de...
Oui, c'est ça. Mais on peut quand même...
Le diplôme.
Oui. Avoir...
par exemple, où il faut que vous ayez mention très bien, de mention très bien, et mention bien, mention bien, enfin quelque chose comme ça.
Et puis, ce n'est pas nécessairement les étudiants qui ont l'air le mieux soignés.
Oui, ce n'est pas une critique que je faisais. Hein. Non, il y avait des très beaux joueurs de rugby dans l'équipe galloise. Il était bien comme ça.
Oui, mais moi, je voulais dire une chose, voyez-vous, à propos de la structure de la France. Hein, je parlais de Napoléon tout à l'heure sous forme de plaisanterie, mais c'est quand même très centralisé, notre système, et très pyramidal. Hein. Et je crois que le problème, c'est que la démocratisation de l'enseignement fait que la base de la pyramide, autrefois, c'est Jules Ferry, la Troisième République, l'enseignement primaire, obligatoire, certificat d'études, à tout le monde. Hein. C'est avec ça qu'on a fait la République. Hein. Et l'enseignement secondaire, qui était l'enseignement de Napoléon, hein, qui devait déboucher surtout à lui faire des officiers et puis l'élite intellectuelle. Hein, maintenant, c'est devenu
la base de la pyramide. Il faut que l'éducation nationale comprenne que l'enseignement secondaire reçoit tout le monde. Et par conséquent, il faut restructurer l'enseignement supérieur, peut-être dans une voie flexible comme celle que, qu'évoquaient nos amis anglais, hein, où tout le monde aura eu un enseignement, je m'excuse mon ami Coulbois, mais un enseignement médiocre, hein, et, mais qu'on n'aura pas bloqué avec des couperets abrupts des enfants qui suivent mal dans une matière parce qu'ils n'ont pas compris la digestion des corps gras ou les inéquations du premier degré en quatrième. Bon, on les laissera continuer quand même. Et puis après, ben, ils iront cogner à la porte de l'enseignement supérieur et essayer d'accéder à cet enseignement qui redeviendra l'enseignement de culture. Je crois que l'enseignement de culture au secondaire, c'est malheureusement quelque chose de disparu.
Le malheur, c'est que si vous faites un enseignement secondaire médiocre, vous faites perdre...
Il est déjà médiocre.
Vous faites perdre leur temps aux enfants jusqu'à 18 ans, alors qu'avant, ils ne perdaient leur temps jusqu'à 12 ans.
Non, je ne crois pas qu'ils perdent leur temps.
Moi, je pense que...
Je pense pas qu'ils perdent leur temps parce qu'ils apprennent, ils ont au moins ceci, c'est d'abord de vivre dans un établissement scolaire entre gens de leur génération, c'est déjà une éducation humaine, c'est une éducation de l'homme, et qui ne peuvent pas faire autrement comme ça, de toute façon.
Alors, chère madame, dans ces conditions, il faudrait suivre votre proposition de tout à l'heure et améliorer... Pendant le cycle d'études secondaires, améliorer la formation humaine, la formation sociale des élèves, plutôt que d'essayer de leur donner même une culture générale. Parce que si vous tenez essentiellement, alors à ce moment-là, à rendre les enseignements secondaires efficaces, eh bien donnez-lui au moins cette vertu qui, elle, est accessible à tous, et n'essayez pas de donner à tous des connaissances que tous ne sont pas incapables d'acquérir au même niveau.
Personnellement, je ne souhaite pas cette évolution, je la subis.
Ce que disait M. tout à l'heure sur l'enseignement primaire, l'enseignement de Jules Ferry, qui a été la base de la première, de la troisième, c'était l'instruction civique, on faisait des citoyens. Maintenant, on ne fait plus de citoyens dans le secondaire.
Sachant lire, écrire et compter. Citoyens, mais les gars, ont gagné la guerre 14.
Il faut surtout plus dire qu'on va faire des citoyens, parce que c'est une notion dépassée. Et on a là une vieille barbe quand on parle de citoyens maintenant.
Mais pourtant, c'est demain,
c'est disons citoyens façon 1970.
Ah oui. Mais ça, je pense tout à fait votre avis. Si vous voulez, on va quand même à une robotisation, à une mécanisation de cette civilisation, si on ne leur fait pas.
Surtout, on fera des enfants qui auront de plus en plus de difficultés à s'adapter.
Alors qu'il faudrait chercher au contraire pour donner le point d'ouverture.
Mais oui, le point d'ouverture.
Mais absolument. Ils sont entre les mains de gens pour qui la culture, c'est essentiellement l'individualisme. Et Dieu sait que la nature française est individualiste.
Oui, ils encouragent.
Et alors ensuite, de quoi on les lâche dans la société qui est une société
collective.
Qui est rigoureusement collective. Même collectiviste.
Même collectiviste.
De plus en plus collectiviste. Bon, hélas, enfin, peu importe que ce soit hélas ou pas hélas. Enfin, de toute façon, il y a une opposition complète entre la formation qu'on leur a donnée, où on leur a peint une société idéale, ou
puis l'environnement dans lequel ils vont
être. Et puis brutalement, on les colle dans la vie, et à ce moment-là, ils s'aperçoivent que ce n'est pas du tout ce qu'on leur a raconté pendant 18
ans. Alors, ils sont déphasés.
Et ils descendent dans la rue à ce moment-là.
C'est ça.
Ils tapent sur les adultes. Et ils ont raison.
Alors que... Je m'excuse pour revenir à ce que disait voilà, si quand même... on conservait à ces éducateurs la qualité qu'avaient les vieux éducateurs quand même.
Absolument, les vieux éducateurs.
Ils ne perdraient peut-être pas, ils n'auraient peut-être pas, comme dit madame, la sensation de perdre leur temps, parce que finalement, les programmes ne sont pas tellement différents de ce qu'ils étaient il y a 20 ans, de notre temps, nous les vieilles barbes. Je ne crois pas qu'on leur apprend plus de choses. Dans les programmes, il n'y en a pas plus qu'il y en avait de temps. Mais je crois que c'est qu'on ne sait pas utiliser ce temps. Je crois qu'on ne sait pas utiliser ce temps comme on l'utilisait.
J'en suis convaincu.
On a eu une tendance à leur apprendre trop tôt des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre,
qui sont inassimilables et qui ne retiendront pas,
et qui ne peuvent pas
retenir. Ah non ? Oui, d'un autre côté, on pourrait très bien leur apprendre une langue anglaise.
Vous avez un exemple, madame, qui est très symptomatique. C'est le problème de la maternelle, sur lequel on est prêt à sortir les couteaux. En ce moment.
Tiens.
Oh ben, à tout propos,
oui, c'était là.
voyez bien, puisque nos chers confrères ont pris le prétexte de la maternelle, la suppression de la maternelle, pour faire la grève lundi.
Suppression de maternelle.
Mais oui, pareil.
C'est dans toutes lettres dans leur programme.
Ils veulent supprimer la maternelle.
Ils chargent M. Guichard de l'intention de supprimer la maternelle. Or, voilà l'intention du ministère, tout au moins ce que j'ai cru en comprendre, c'est que les maternelles deviennent maintenant pléthoriques et prennent une place très importante. Or, dans la maternelle, il y a deux stades. Il y a le stade vraiment maternel qui relève du jardin d'enfants,
la crèche,
et puis le stade pré-primaire.
Oui.
Le stade pré-primaire commence à peu près à 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. C'est l'âge, d'après tous les pédiatres, c'est le seul âge à partir duquel on peut espérer commencer à apprendre quelque chose. Quand on vous dit les petits génies qui apprennent à lire à 3 ans, oui d'accord, Mozart jouait du piano à 3 ans et demi. Enfin, il y en a un par siècle. Par conséquent, étant donné que les institutrices sont quand même un corps d'élite qui a été formé pour faire de l'enseignement et non pas pour faire de la pédiatrie et non pas pour faire de la crèche, alors une institutrice dont le métier consiste 6 heures par jour à changer les couches des gosses qui font pipi dans leurs culottes, excusez-moi, mais c'est vraiment du gâchis. Par conséquent, le ministère a l'intention de doubler les institutrices par des jardinières d'enfants. Étant entendu que les jardinières d'enfants ont un statut bien particulier et un diplôme bien spécial. Alors, là-dessus, notre fédération consoeur a bondi en disant, ça y est, c'est la première marche pour supprimer les maternelles et pour supprimer les institutrices. Voyez-vous, voilà exactement comment on dénature les choses.
Oui.
Alors que l'école maternelle est une institution qui est vraiment indispensable et qui a fait ses preuves.
Oui, surtout avec le travail des femmes, quoi, il faut bien un endroit pour réceptionner les gosses.
Alors, au lieu que l'école primaire soit une post-maternelle, on ferait de la maternelle une pré-primaire. Ce qui est beaucoup plus astucieux, n'est-ce pas? Mais avec un corps d'institutrices spécialisées qui font vraiment leur travail sur des gosses de 4 ans et demi, 5 ans.
Mais alors que là, ils ont des enfants de 2 ans.
Bon, voyons. Alors, elles passent leur temps, je vous dis, à donner des biberons ou à ramasser des gosses par terre.
Et pourtant, on a reculé l'âge également du démarrage de...
Enfants, quand il y a des crèches.
Oui, les crèches, oui, même, on refusait aux enfants le droit d'apprendre à lire avant 6 ans ou 7
ans.
On leur faisait passer plusieurs stades de maternelle.
Oui, il y avait pas de
démarrer la dixième, la fameuse dixième, oui, où... Et tout élève qui pouvait lire avant l'âge voulu ne pouvait pas
entrer pour votre documentation personnelle, si je peux me permettre de vous le signaler, je lisais récemment dans les mémoires du maréchal Foch. Maréchal Foch a passé son concours d'entrée à Polytechnique en 71. Et il le préparait en 70 à Metz, ça vous dit quelque chose, Metz 70, au son des canons de la bataille de Fréchevillers. Eh bien, il met en toutes lettres, dans la préface de ses mémoires, que ses parents et ses professeurs, et nos professeurs, dit-il en parlant de ses camarades, avaient jugé bon de nous donner une culture générale littéraire avant de commencer les études scientifiques. Et il a passé son baccalauréat S-lettres, à l'époque, avant d'entreprendre la préparation au concours de l'école polytechnique. Et dit-il, ça a reculé un peu l'accès à l'école polytechnique, mais par la suite, quand il s'est agi de traiter des problèmes humains ou des problèmes de conduite, comme il a été amené à les pratiquer, eh bien, cette culture lui a été d'un secours énorme. Voilà un cas.
Oui, mais alors, vous connaissez les discussions acharnées qu'on a eues l'autre jour avec le proviseur à propos du passage en scientifique ou en littéraire au niveau de la seconde, hein, où moi je prétends que c'est trop tôt pour les orienter. On a eu un très mauvais enseignement de mathématiques jusque-là. Les gamins n'y ont rien compris et se disent de mathématiques que la barbe, je réponds mon bachot. Alors, autant rester en littéraire,
absolument.
Mais encore on est submergé de littéraire.
Et on vide les disciplines scientifiques.
Oui, absolument.
Ça, c'est la raison. Alors que si on avait maintenu la culture générale jusqu'au baccalauréat, mais par la suite, on aurait rempli des maths sup et des maths spé très facilement.
Bien sûr, par des gars qui n'auraient pas été dégoûtés.
Absolument.
Mais on revient toujours au même problème, on ignore complètement l'évolution économique des pays.
Mais oui.
Une fois de plus, on applique un enseignement qui ne débouche sur rien.
Qui ne débouche sur rien.
Ça, c'est le...
Il était quand même courant, il était courant dans notre génération de trouver des bacheliers philo et mathématiques.
Ah ben moi, j'ai fait les deux aussi.
C'est courant.
Vous aussi.
Mais maintenant, oui.
Ça donnait des points de plus.
Exactement. Et bien sûr, ma femme a fait pareil. Ça vient même plus à l'idée.
Et surtout, on avait la possibilité de le faire. Voilà. Maintenant, on n'a plus la possibilité de le faire. On ne peut pas être à la fois C et A. C'est pas possible.
Ah non. Non, on est CON.
Si on avait une, la fille d'un de nos amis qui a passé son bachot, qui a passé son bachot,
et qui a deux ans.
Oui, deux ans. Oui.
C'est ça.
Non, non. Elle parce qu'il n'y a plus qu'une session.
Mais oui. Alors vous pouvez passer A si vous voulez.
C'était la même année,
mais pas la même année.
Ça vous va comme thème de discussion?
Ça nous va très très bien, oui.
Tout à fait. Remarquez, il y a une question qu'on ne vous a pas posée, c'était justement la méthode employée pour enseigner les langues vivantes.
Ah oui.
Ah oui.
Et on avait qui est
le grand problème, puisque c'est un peu ce qu'on critique dans la pédagogie actuelle, c'est d'enseigner une langue pendant 5 ans et de voir l'élève sortir de sa classe
en ne sachant pas parler
en sachant absolument pas parler ou comprendre la langue.
On aurait eu des difficultés à tenir notre conférence en anglais.
Non, parlons pas.
Et pourtant, on prétend parler anglais.
Mais il y a un professeur du lycée qui avait fait les statistiques et qui est un enfant qui a fait 5 ans de langue arrive au bachot en ayant parlé en tout 3 heures, personnellement.
Oui. Oui, mais c'est... Alors, quelle est votre opinion là, sur ce problème que vous a posé, monsieur
C'est-à-dire que je vais monter mon micro.
En tant que linguiste.
Nous avons... Enfin, moi, j'ai appris le français par la méthode tout à fait traditionnelle. Nous avions des livres. Je crois que le professeur que j'ai eu était très bon. Ils n'ont pas vraiment suivi le programme où il fallait traduire et retraduire, etc., etc. On a beaucoup parlé et nous avions des classes quand même de pas plus de 15 élèves.
Ah oui.
Voilà,
premier point.
Déjà, premier point. C'est-à-dire que le lycée n'était pas grand et nous avions deux classes dans la même année, A et B. Et en A, la classe avait à peu près 25-30 élèves, était divisée en deux, et puis il y avait quelques filles qui venaient à notre cours. Enfin, il y avait 15-20 élèves dans la section où j'ai fait les études de français. Et de l'âge de 11 ans à 16 ans, il y avait donc à peu près, 11 ans à 12 ans, 25 élèves, 12 ans à 16 ans, 15 à 20 élèves, et ensuite 10 élèves, de 16 à 18 ans.
Et malgré tout, pas plus de 3 heures par semaine.
De 160 minutes. De 11 ans à 16 ans, mais après... Nous avions 6
cours,
plus un cours de 6 cours normaux, 3 cours de grammaire et de langue française, 3 cours de littérature française, un cours de français avec une assistante de français et un cours supplémentaire où le professeur nous remettait le devoir.
Et vous parliez tout le temps français, pratiquement.
Nous parlions les deux dernières années, souvent en français.
Souvent.
Combien d'années, vous
appris le français?
J'apprends le français depuis 11 ans, et j'ai 22 ans maintenant, depuis 11 ans.
à l'université, nous avons fait nos études à l'université de Londres et au collège universitaire, c'est le collège fondateur. Et là-bas, ils n'admettent que 30 élèves par année. Et alors, il y avait 30 étudiants au début, en première année. Et au fur et à mesure, il y a des étudiants qui abandonnent. Et en dernière année, l'année dernière, nous étions 20. Et pour toutes les conférences et pour tous les... Et même, enfin, après, pour des cours de thème de version, par exemple, nous étions 20. Mais nous avions aussi des cours avec le professeur.